sur les fécondations artificielles. De grandes mauves rouges, d'une coloration nouvelle et singulière, s'étaient fanées dans leur vase sans qu'elle eût fini de les copier. Et, pendant une après-midi entière, elle se passionna encore sur un dessin fou, des fleurs de rêve, une extraordinaire floraison épanouie au soleil du miracle, tout un jaillissement de rayons d'or en forme d'épi, au milieu de larges corolles de pourpre, pareils à des cœurs ouverts, d'où montaient, en guise de pistil, des fusées d'astres, des milliards de mondes coulant au ciel ainsi qu'une voie lactée. « Ah, ma pauvre fille !» lui dit ce jour-là le docteur. « Peut-on perdre son temps à de telles imaginations ? Moi qui attends la copie de ces mauves que tu as laissées mourir. Et tu te rendras malade ? Il n'y a ni santé, ni même beauté possible en dehors de la réalité. » Souvent, elle ne répondait plus, enfermée dans une conviction farouche, ne voulant point discuter. Mais il venait de la toucher au vif de ses croyances. « Il n'y a pas de réalité, » déclara-t-elle nettement. Lui, amusé par cette carrure philosophique chez cette grande enfant, se mit à rire. « Oui, je sais, nos sens sont faillibles. Nous ne connaissons le monde que par nos sens. Donc, il se peut que le monde n'existe pas. Alors, ouvrons la porte à la folie. Acceptons comme possible les chimères les plus saugrenues. Partons pour le cauchemar, en dehors des lois et des faits. Mais ne vois-tu donc pas qu'il n'est plus de règles si tu supprimes la nature, et que le seul intérêt à vivre est de croire à la vie, de l'aimer et de mettre toutes les forces de son intelligence à la mieux connaître ? » Elle eut un geste d'insouciance et de bravade à la fois, et la conversation tomba. Maintenant, elle sabrait le pastel à larges coups de crayon bleu. Elle en détachait le flamboiement sur une limpide nuit d'été. Mais, deux jours plus tard, à la suite d'une nouvelle discussion, les choses se gâtèrent encore. Le soir, au sortir de table, Pascal était remonté travailler dans la salle, pendant qu'elle restait dehors, assise sur la terrasse. Des heures s'écoulèrent. Il fut tout surpris et inquiet, lorsque sonna minuit, de ne pas l'avoir entendue rentrer dans sa chambre. Elle devait passer par la salle, il était bien certain qu'elle ne l'avait point traversée derrière son dos. En bas, quand il fut descendu, il constata que Martine dormait. La porte du vestibule n'était pas fermée à clé. Clotilde s'était sûrement oubliée dehors. Cela lui arrivait parfois pendant les nuits chaudes, mais jamais elle ne s'attardait à ce point. L'inquiétude du docteur augmenta lorsque, sur la terrasse, il aperçut, vide, la chaise où la jeune fille avait dû rester assise longtemps. Il espérait l'y trouver endormie. Puisqu'elle n'y était plus, pourquoi n'était-elle pas rentrée ? Où pouvait-elle s'en être allée à une pareille heure ? La nuit était admirable, une nuit de septembre, brûlante encore, avec un ciel immense, criblé d'étoiles, dans son infini de velours sombre. Et, au fond de ce ciel sans lune, les étoiles luisaient si vives et si larges qu'elles éclairaient la terre. D'abord, il se pencha sur la balustrade de la terrasse, examina les pentes, les gradins de pierre sèche, qui descendait jusqu'à la voie du chemin de fer. Mais rien ne remuait. Il ne voyait que les têtes rondes et immobiles des petits oliviers. L'idée alors lui vint qu'elle était sans doute sous les platanes, près de la fontaine, dans le perpétuel frisson de cette eau murmurante. Il y courut. Il s'enfonça en pleine obscurité, une nappe si épaisse que lui-même, qui connaissait chaque tronc d'arbre, devait marcher les mains en avant pour ne point se heurter. Puis ce fut au travers de la pinède qu'il battit ainsi l'ombre, tâtonnant, sans rencontrer personne. Et il finit par appeler, d'une voix qui l'assourdissait, « Clotilde ! Clotilde !» la nuit restait profonde et muette. Il haussa peu à peu la voix. « Clotilde ! Clotilde !» Pas une âme, pas un souffle. Les échos semblaient ensommeillés. Son cri s'étouffait dans le lac infiniment doux des ténèbres bleues. Et il cria de toute sa force. Il revint sous les platanes, il retourna dans la pinède, s'affolant, visitant la propriété entière. Brusquement, il se trouva sur l'air. À cette heure, l'air immense, la vaste rotonde pavée, dormait elle aussi. Depuis les longues années qu'on n'y vannait plus de grains, une herbe y poussait, tout de suite brûlée par le soleil, dorée et comme rasée, pareille à la haute laine d'un tapis. Et, entre les touffes de cette molle végétation, les cailloux ronds ne refroidissaient jamais, fumant dès le crépuscule, exhalant dans la nuit la chaleur amassée de tant de midis accablants. L'air s'arrondissait, nu, déserte, au milieu de ce frisson, sous le calme du ciel. Et Pascal la traversait pour courir au verger, lorsqu'il manqua culbuté contre un corps longuement étendu qu'il n'avait pu voir. Il eut une exclamation effarée. « Comment, tu es là ?» Clotilde ne daigna même pas répondre. Elle était couchée sur le dos, les mains ramenées et serrées sous la nuque, la face vers le ciel. Et, dans son pâle visage, on ne voyait que ses grands yeux luire. « Moi qui m'inquiète et qui t'appelle depuis un quart d'heure, tu m'entendais bien crier ?» Elle finit par desserrer les lèvres. « Oui. »« Alors, c'est stupide! Pourquoi ne répondais-tu pas ?» Mais elle était retombée dans son silence. Elle refusait de s'expliquer, le front têtu, les regards envolés là-haut. « Allons, viens te coucher, méchant enfant, tu me diras cela demain. » Elle ne bougeait toujours point. Il la supplia de rentrer à 10 reprises, sans qu'elle fît un mouvement. Lui-même avait fini par s'asseoir près d'elle, dans l'herbe rase, et il sentait sous lui la tiédeur du pavé. « Enfin, tu ne peux coucher dehors. Réponds-moi au moins, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je regarde. » Et de ses grands yeux immobiles, élargis et fixes, ses regards semblaient monter plus haut parmi les étoiles. Elle était toute dans l'infini pur de ce ciel d'été au milieu des astres. « Ah, maître !» reprit-elle d'une voix lente et égale. « Ininterrompu.